Laetitia, comment ça va?
Salut Hélène, ça va bien et toi?
Eh bien écoute, ça va pas trop mal. Je suis contente de te retrouver pour ce petit épisode un peu nouveau au niveau du format qu'on essaye aujourd'hui toutes les deux à deux voix pour changer. Alors du coup, pour celles et ceux qui nous écoutent, on va quand même préciser un petit peu ce qu'on a envie de faire dans cet épisode, donc qui va être plus court que les interviews qu'on a l'habitude de diffuser sur le podcast Né au travail. Là, notre idée, en tout cas, c'était plutôt de parler donc d'une œuvre. Ça peut être un livre, éventuellement un spectacle, un film, une série. On verra en fonction de ce qui nous inspire et d'échanger toutes les deux, en tout cas, sur ce qu'on a vécu, ressenti face à cette lecture ou à ce visionnage ou autre, et puis surtout de comment est-ce que ça vient alimenter nos réflexions écoféministes, en particulier sur le travail. Après, ça pourra peut-être être un peu plus large de temps en temps, mais l'idée, c'est vraiment d'alimenter un petit peu nos réflexions à partir de ces œuvres-là et d'en parler toutes les deux. Pour donner aussi peut-être envie aux personnes de découvrir ces œuvres-là et de nourrir leurs réflexions en allant découvrir donc ces fameux bouquins ou films ou séries ou autres qu'on découvrira ensemble.
Tout à fait. Et du coup, on a voulu commencer cette série de mini-épisodes par un livre qui nous a marqué toutes les deux, qu'on a lu dans la foulée, qu'on a lu très rapidement. C'est le second livre de Lorraine Bastide qui s'appelle Futur, comment le féminisme peut sauver le monde. Alors, on va faire un petit point rapidement, une petite présentation de Lorraine Bastide pour celles et ceux qui ne connaissent pas. C'est une journaliste et féministe engagée. Elle a créé le podcast La Poudre en 2016. C'est un podcast que vous pouvez trouver uniquement sur Spotify. Aujourd'hui, il y a plus de 130 épisodes qui sont vraiment de grande qualité, donc je vous invite vraiment à aller les écouter. Et comme le dit Virginie Despentes dans une interview qui a été faite d'elle, La Poudre, c'est une archive extraordinaire du féminisme de ces 10 dernières années. Voilà, ça c'est juste pour vous faire un petit teasing, pour que vous puissiez l'écouter. Lorraine Bastide, du coup, en 2020, elle publie Présente, qui est un manifeste féministe sur la place des femmes dans l'espace public, médiatique, politique. Et 2 ans après, donc en 2022, je crois fin 2022, elle publie l'essai Futur, comment le féminisme peut sauver le monde. C'est donc de cet essai que l'on souhaite vous parler dans cet épisode. En fait, cet essai, Lorraine Bastide nous invite vraiment à nous interroger sur du coup, comment le féminisme et l'écoféminisme peut bouleverser le monde et en particulier le monde du travail qu'elle aborde également. Elle nous invite en fait à rêver, à imaginer un monde plus responsable, plus sensible, où l'on pourrait comprendre réellement l'interdépendance de chacun, être humain, animal, végétal, et ce, dans le but ultime de prendre soin de soi, du vivant, dans sa globalité. En fait, tout au long du livre, elle nous invite à casser un peu notre pensée binaire du bien-mal, d'homme et de la femme, les riches, les pauvres d'un côté, qui revient finalement assez souvent à avoir une vision étriquée, une vision assez étroite de ce que pourrait être le monde, la société, mais à penser plutôt dans un prisme plutôt global, un prisme, voilà, quelque chose de plus holistique où chacun aurait sa place et son rôle utile. Bon, et alors évidemment, il y a eu pas mal de claques qu'on s'est prises tout au long du livre. Il y a eu des moments où on rigole parce que l'écriture est assez accessible. Il y a aussi un fait qu'elle parle énormément de son propre vécu, de son expérience personnelle. Enfin, elle dédie son bouquin à Julia, qui est sa sœur qui a été victime d'un féminicide. Donc, c'est un livre qui est touchant.
Ouais, là-dessus, moi, enfin, sa façon d'écrire, je l'ai trouvée hyper intéressante. Et puis, bon, déjà, c'est hyper bien écrit et on retrouve un peu son style, je trouve, et sa personnalité. Alors, pour celles et ceux qui l'entendent dans La Poudre, enfin, moi, à la lecture du livre, j'avais l'impression de l'entendre me lire ce bouquin comme si elle me parlait. Et effectivement, à la fois, c'est hyper bien documenté quand même. On peut découvrir, redécouvrir des pensées féministes, écoféministes. Il y a beaucoup de chiffres. Voilà, des fois, on est un peu matraqué d'évidence, voilà, de faits qu'il faut digérer. Et en même temps, elle s'appuie énormément sur son, comme tu le disais, en fait, sur son vécu, son expérience personnelle. Évidemment, moi, ça m'a beaucoup touchée qu'elle partage Tout ce qui s'est passé en fait autour du féminicide de sa sœur fait que j'ai découvert dans le livre en plus, donc c'était assez incroyable, je trouve, qu'elle nous partage tout ça là. Et en tout cas, au-delà de cet événement-là et de sa vie personnelle, elle se raccroche beaucoup à son vécu, à son expérience personnelle. Et je sais que voilà, moi comme toi, on vit aussi notre écoféminisme comme ça. C'est vraiment quelque chose qu'on vit, qu'on ressent, et ça fait du bien, je trouve, d'avoir cette accroche très personnelle, en fait intime quelque part, et ça donne un peu aussi de corps, je trouve, à tout ce qui peut être théorique, en fait, vu comme très politique, théorique. Avec elle, on se raccroche aussi à nos vies, en fait, à nos quotidiens, à ce qu'on expérimente tous les jours. Je pense que ça peut être aussi, tu sais, une bonne introduction, même si elle, c'est pas, elle est pas là pour nous expliquer ce que c'est que le féminisme, mais c'est pour une bonne entrée en la matière, pour avoir plein d'éléments, et en même temps, elle apporte des solutions. Donc c'est là-dessus, c'est quand même assez intéressant de aussi de si on découvre le féminisme ou l'écoféminisme, d'ouvrir un bouquin de Lorraine Bastide, c'est une bonne base, je trouve.
Ouais, complètement. Bah, c'est ça, parce que c'est vrai que par rapport à d'autres livres sur le féminisme ou même l'écoféminisme qui peuvent être plus pointus, poussés, enfin les réflexions sont parfois peut-être un peu complexes. Là, je trouve que c'est hyper abordable et elle arrive à mêler tout son savoir qui est encyclopédique autour du féminisme à raccrocher du coup à des faits, à ce qui se passe au niveau mondial, au niveau de l'environnement, à l'écologie. Enfin voilà, c'est je trouve qu'elle raccroche vraiment bien les wagons et c'est de ça dont on parle quand on parle de d'écoféminisme, on parle de quelque chose de global, d'un tout. Et du coup, je voulais citer un petit passage d'elle qu'elle a écrit dans son introduction et je trouve qu'il y a une bonne introduction au bouquin et à notre conversation à deux voix. Alors, elle écrit. Croyez-moi, si on laissait les féministes prendre les rênes du pouvoir, il adviendrait un autre monde. Il s'agirait d'un monde où le mot « travail » n'aurait plus le même sens. Et ça serait sans le moindre doute un monde où l'on se soucierait de ne pas laisser pour lieu de vie à nos gosses un désert en friche irrespirable. Parce que parler des femmes, c'est parler des enfants et des hommes. Parler des femmes, c'est parler de naître et de corps, de nature, de culture. Parler des femmes, c'est parler de violence, de guerre, d'argent, de douleur et de lutte. Parler des femmes, c'est parler de tout. Et je trouve que c'est une super une introduction en fait à tout son livre parce que c'est vrai qu'elle aborde énormément de thèmes, de thématiques. Et finalement, c'est aussi un livre qui, malgré les chiffres accablants, voilà les études, la réalité qu'elle nous montre, je trouve que c'est quand même un livre assez optimiste et joyeux.
Oui, parce qu'elle déconstruit énormément de choses autour des grandes thématiques qu'elle aborde, mais c'est aussi pour nous proposer ce fameux futur qui vient sauver le monde, où on aborde, en fait, on voit bien tous ces sujets, l'intersection entre tous les sujets, donc le genre, le capitalisme, le colonialisme, l'exploitation de la nature, et c'est intéressant parce qu'elle arrive effectivement à mêler tout ça, mais à le démêler aussi quelque part pour nous faire voir un futur qui est attrayant, je dois dire. Moi, j'ai pris plaisir à me projeter dans le futur qu'elle nous propose, et ça fait du bien en fait. Ça fait aussi un peu une respiration d'entrevoir des solutions. En plus, elle dit dans son bouquin que finalement ce futur est déjà un peu là. D'ailleurs, c'est sur la quatrième de couverture. Et c'est vrai que ça rassure quelque part de se dire que le futur qu'elle décrit, qu'elle dépeint, déjà, il fait envie, à mon sens. Mais en plus de ça, il y en a déjà les fondements. Et son livre, et la façon dont elle écrit, c'est assez poétique, je trouve. Je ne sais pas si tu as ressenti un peu ça, des fois, à la lecture de certains passages, mais ça casse aussi un peu ce côté très documenté, chiffré.
Oui, elle arrive à narrer aussi son texte. C'est-à-dire que je pense que c'est aussi par le fait de prendre des éléments de contexte quand qu'elle dit qu'elle écrit dans son jardin, qu'un petit papillon, un petit insecte vient lui caresser la main. Enfin, il y a tout un côté où elle nous met dans une ambiance, elle nous met dans une déjà effectivement proche d'elle, avec elle. Et de là peut découler quelque chose de plus, peut-être de plus fluide, de plus léger que les chiffres qu'elle peut aborder. En fait, je pense que elle arrive à jouer vraiment sur les deux tableaux, sur la réalité qu'elle dépeint et puis sur le côté plus narré où on a besoin d'histoires. D'ailleurs, elle en parle à un moment donné. On a besoin de nouvelles narrations en fait pour imaginer un futur désirable. Donc c'est vraiment ça dont il est question. Et toi, je me demandais qu'est-ce qui t'a le plus, parce que bon, on l'a dit, hein, il y a énormément de choses qui nous ont bouleversés dans le livre, mais qu'est-ce qui t'a le plus ému?
Eh ben, moi, il y a plusieurs sujets qui m'ont quand même un peu bouleversée. Et il y en a un en particulier. Alors, celui-ci, il m'a émue, il m'a bouleversée, mais il m'a aussi quand même mis une grosse claque et mis en colère. Mais c'est surtout, bah, d'ailleurs, c'est dans le début du bouquin, pardon, parce que dans le premier chapitre, elle questionne beaucoup le genre et les identités qui peuvent y être liées. Elle déconstruit un peu tout ça et elle prend l'exemple, en fait, de ce que vivent les personnes qu'on appelle intersexes et donc tout ce qu'elles subissent, en fait, au nom de la binarité de genre. Alors, pour détailler très rapidement, en fait, les personnes intersexes, c'est des personnes finalement qui, à la naissance, on ne peut pas les mettre dans une case tu as un sexe féminin, donc tu es une fille, ou alors tu as un sexe masculin, donc tu es un petit garçon. C'est des personnes qui ne rentrent pas dans ces deux cases binaires. Et donc, il y a un corps médical qui va inviter les parents à décider de choisir entre un sexe plus qu'un autre. En plus, on apprend que on invite principalement majoritairement en tout cas, à choisir plutôt le sexe féminin parce qu'il est plus facile à construire. Donc déjà, super au niveau des raisons qui justifient le choix plus qu'un autre. Mais c'est surtout que c'est des personnes du coup qui subissent énormément d'opérations. De violences médicales, qui ont des traitements hormonaux lourds. Enfin, c'est vraiment horrible, je trouve, ce qui est décrit. En plus, du coup, l'enfant intersexe qui subit tout ça, en fait, n'a pas son mot à dire. Y a zéro consentement, parce que de toute façon, les enfants n'ont pas leur voix au chapitre, et c'est malheureusement le cas sur plein d'autres sujets. Mais moi, ça m'a vraiment bouleversée. Et ouais, non, ça m'a, enfin, c'est vraiment un passage qui m'a limite perturbée, en fait, de constater qu'au nom de cette binarité de genre, de sexe, des cases dans lesquelles on nous met, donc il y a les hommes, il y a les femmes, et il n'existe rien d'autre, ce qui vient questionner aussi les autres identités, hein, d'ailleurs. Ça m'a vraiment interpellée, et je trouve que ça, c'est vrai que c'est une. Il y a beaucoup de choses qui reposent sur ce postulat, sur cette binarité-là. Et donc, je ne sais pas si toi, ce que tu as ressenti par rapport à ce sujet-là, mais en tout cas, moi, celui-ci, c'est vraiment celui qui m'a le plus perturbée d'emblée.
Ben, c'est vrai qu'en plus, il est au début du livre. Et moi, j'avoue que j'ai été surprise de découvrir vraiment les personnes intersexes. Qu'est-ce qu'elles vivaient, parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, on a passé sous silence. Enfin, et en plus, elle avance des chiffres qui sont pas anodins. On parle quand même, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est quand même assez conséquent.
Ouais, je
Donc,
crois que c'est plus d'1%, presque
ouais.
2% de personnes intersexes. C'est vrai que c'est hyper intéressant de questionner le genre à partir de cette question-là ouais, des personnes intersexes. Surtout que, comme toi, moi j'ai découvert quasiment tout, en fait, sur ce sujet à la lecture du livre. Pareil, c'est vraiment caché, passé sous silence, comme si ces personnes, finalement, presque. Comment dire, comme s'il y avait un tabou, il fallait surtout pas montrer qu'il y avait des gens un peu hors normes, entre guillemets, ou un peu extraordinaires, parce qu'il faudrait surtout pas qu'on vienne penser que il existe autre chose que des hommes et des femmes, et tout ce qui s'ensuit avec l'identité de genre et comment on nous socialise, parce que bah voilà, on a un utérus, donc on va nous socialiser en tant que femme. Et inversement, on a un pénis, donc on va nous socialiser en tant qu'homme. Et là, tu as des personnes qui rentrent pas dans cette case-là. Et surtout, faut le cacher, en fait. Et faut corriger, surtout. Tu vois, c'est pas acceptable. Et c'est ça qui rend le truc vraiment. Moi, je me suis pris une grosse claque à ce niveau-là parce que ça vient vraiment secouer Tout ce qu'on fait au nom de la binarité de genre, qu'on conscientise pas forcément parce que voilà, il y a énormément de choses à déconstruire et je trouve que c'est un sujet qui est très difficile à déconstruire d'ailleurs.
Bah, oui, parce qu'on a très peu de clés, très peu d'éléments là-dessus, mais je trouve que justement le fait qu'elle annonce, qu'elle en parle comme ça, c'est vrai au début, ou voilà, en disant direct d'emblée de jeu, voilà, maintenant vous le savez, on ne parle pas d'un monde binaire, homme et femme, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et petit à petit, elle amène aussi cette critique-là sur l'hétérosexualité. Et moi, c'est ça qui m'a aussi hyper bouleversée dans le livre. Alors, c'est pas des choses que j'ai découvertes, mais la façon dont elle a parlé, dont elle a amené, je trouve que c'était assez fort. Elle montre en fait comment finalement le patriarcat impose le travail gratuit, le travail domestique et tout, de façon plus globale, tout ce qu'on appelle le care aux femmes. Elle montre vraiment que les femmes qui vivent dans un couple hétérosexuel, mariées la plupart du temps, doivent s'occuper des enfants, nettoyer le foyer, préparer les repas gratuitement, c'est normal, pendant que les hommes, eux, travaillent, bien sûr, de façon rémunérée, dans les usines, dans les champs, en dehors du foyer en tout cas. Et elle cite Christine Delphi, que j'ai découvert aussi dans le livre, et ça m'a donné envie de creuser. Pour elle, pour Delphi, en fait, l'ennemi numéro un, c'est déjà la famille et le mariage hétérosexuel. Et c'est vrai que Lorraine Bastidel, elle s'appuie sur cet exemple pour parler de l'éthique du care. Et je trouvais ça assez intéressant parce que tout est. Je trouve qu'en fait, l'éthique du care, ça revient plusieurs fois dans le livre. Moi, c'est un peu un fil rouge ou un fil, une fois, une fil directeur de comment elle amène sa pensée à l'écoféminisme. En disant que finalement l'éthique du care, c'est une des idées les plus puissantes qui ont été développées par les pensées féministes et écoféministes de ces dernières années. Et finalement, c'est grâce à ce care qu'on pourra changer les choses et voir advenir éventuellement une société plus humaine, plus respirable, plus durable. Je trouve que c'est intéressant le fait qu'elle commence, elle critique l'hétérosexualité et tout ce que ça engendre, la famille, le mariage, pour finalement dire qu'en fait c'est vraiment un carcan social qu'on nous a imposé, dans lequel on nous a mis, qui a imposé justement aux femmes de prendre soin du foyer, des enfants, enfin bon, tout ce qu'elle déroule qu'on connaît. Mais moi, j'avais pas forcément remonté, on va dire, tu vois, remonté les étapes en me disant, ah oui, peut-être que la première chose à questionner, c'est l'hétérosexualité, c'est le fait d'avoir un couple homme et femme. Peut-être que, tu vois, le nœud du souci, il est peut-être là.
C'est là où c'est vachement malin aussi la façon dont elle écrit, c'est que bon, on n'a pas parlé de la structure du bouquin, mais globalement elle parle d'abord donc du genre et des identités de genre. Donc clairement, on est dans une société où c'est d'abord en fait c'est homme-femme et le reste n'existe pas ou ne doit pas exister. En tout cas, on ne fait pas la place pour tout ce qui serait en dehors de cette binarité. Et donc ce qui est pratique, c'est qu'après, quand tu as effectivement un homme, une femme, comme ça marche plutôt bien au niveau de la reproduction de l'espèce, bon, effectivement, on va plutôt inciter à ce que les êtres humains se reproduisent. Donc pour ça, il faut effectivement, a priori, en tout cas, c'est uniquement ce qui est validé, un homme, une femme, hein, même s'il y a d'autres façons de faire, mais on va surtout pas pousser là-dessus. Donc on se retrouve effectivement avec cette injonction à l'hétérosexualité. Pour reproduire en plus, parce que on pourrait, enfin, t'es pas obligé d'être dans une relation hétéro et avoir envie de reproduire, c'est-à-dire avoir des enfants et faire famille, etc. Mais là, effectivement, il y a cette injonction incroyable qui pousse à l'hétérosexualité. Donc, c'est ce qu'elle dit dans le bouquin, mais c'est vrai que moi, c'est ça qui m'a interpellée et je l'avais pas vu comme ça, mais en fait, l'hétérosexualité, c'est une construction culturelle, en fait, et sociale. On nous socialise comme ça, en fait. Toi, t'es une petite fille et du coup, tu aimes les petits garçons et puis inversement. Et c'est vrai que ce truc, parce que bon, moi aussi, du coup, je suis une femme dans une relation, dans une union hétérosexuelle, alors qui me convient a priori, mais ça questionne sur le cheminement et comment ça s'est construit. Et dans tous les cas, cette hétérosexualité vient effectivement avec un super package de, bah du coup, S'il y a famille, c'est effectivement la femme qui va être en charge de tout ce qui est en lien avec le soin, donc le fameux care. Et c'est un peu en plus la double peine avec le fait que maintenant on soit autorisé à travailler pour alimenter effectivement la petite machine capitaliste, mais il faut quand même assumer notre deuxième journée. Et puis d'ailleurs, et c'est moi ça qui m'a aussi interpellée dans le bouquin, qui vient avec son lot du coup de violence, parce que bon, à la limite qu'on nous impose à faire le ménage, voilà. Par contre, quand on nous impose aussi des violences sexistes, sexuelles, et quand on voit que l'hétérosexualité tue, ou en tout cas est quand même dangereuse, il y a tout un passage où elle parle de ça et justement de comment on fait justice face à ça. Elle parle de MeToo, elle parle du fait qu'en fait les violeurs, les agresseurs ne sont pas condamnés. Et en même temps, alors ça, c'est quelque chose moi qui m'a marquée, elle questionne en fait tout ce qui tourne autour de la criminalisation des agresseurs, des violeurs, et elle va sur un terrain auquel je ne m'y attendais pas et que j'aurais pas envisagé, il est vrai, sur l'aspect agresseur-violeur, qui est en fait l'abolition des prisons, des peines, etc. Parce que d'emblée, le réflexe, c'est de se dire, moi, je suis plutôt pour l'insertion, la réinsertion, éviter la récidive. Donc, du coup, il ne faut pas exclure les personnes, faut les écouter, les entendre, prendre soin d'elles pour qu'elles se réparent elles-mêmes et qu'elles ne fassent plus de mal à autrui. Par contre, quand il s'agit d'inceste, pédophilie, viol, agression sexuelle, meurtre, féminicide, etc. Là, j'ai vachement plus de mal à imaginer qu'on puisse ne pas exclure ces personnes. Et en fait, elle parle de ça dans le bouquin. Moi, ça m'a mis une grosse claque, je dois le reconnaître, parce que c'était un peu difficile à imaginer, à entendre. Et en même temps, quand on voit qu'il y a des pays qui ont connu des génocides hardcore, je pense au Rwanda, mais il y a aussi du coup tout ce qui s'est passé en Afrique du Sud avec la ségrégation. Bon, ben c'est vrai qu'ils ont mis en place des systèmes de réparation où tu n'exclus pas les gens, mais tu discutes, tu te poses, tu entends, et les victimes peuvent aussi parler, se faire entendre, et que leur peine soit comprise en fait. Et c'est donc aussi émouvant parce qu'elle part de son expérience par rapport au meurtre de sa sœur en fait. Donc c'est très concret. Et moi, ça m'a questionné sur, effectivement, comment on traite ces sujets-là, comment on soigne, comment on répare, comment on prend soin, hein, finalement, on revient sur notre éthique du care. Et du coup, comment tu exerces quand tu es dans la police, ou comment est-ce que tu exerces quand tu es dans la justice? C'est quoi ton rôle? C'est quoi, enfin voilà, comment est-ce qu'on forme les gens, comment on accompagne les gens pour peut-être aller vers des choses enfin, en tout cas, un fonctionnement qui permet vraiment de réparer donc les gens, à la fois les victimes, mais aussi les personnes qui agressent, qui tuent, qui violent. Comment on répare aussi les méchants, finalement, qui ne sont pas des monstres, hein, c'est des gens lambda, hein, clairement. Elle parle beaucoup de ça dans le bouquin aussi, mais cette image du violeur, de l'agresseur qui serait quelqu'un de pauvre, de race, enfin tu vois, de non blanc, de, en fait ça c'est un mythe aussi, parce que on voit bien que des agresseurs, des violeurs, il y en a partout. Ça, moi, ça m'a pris une grosse claque. Je sais pas ce que toi tu en as pensé, mais j'ai trouvé que c'était quand même assez costaud de nous parler d'abolition des peines et des prisons.
Pareil, j'ai été aussi un peu au début choquée par ça parce qu'on se dit bah non, il mérite le pire. Mais finalement, je trouve que c'est assez intelligent de se dire bah voilà, peut-être que ces personnes, elles ont elles aussi, et c'est pas peut-être d'ailleurs, c'est sûr, elles ont elles aussi des traumas, elles ont elles aussi vécu des choses très graves, très très lourdes. Et il y a peut-être toute une, enfin la psychologie a fait beaucoup d'efforts, à beaucoup travailler dessus, mais peut-être qu'il y a quelque chose à faire de l'ordre de la compréhension pour pouvoir aider et non pas parquer comme on pourrait parquer des animaux dans des prisons qui sont bondées, qui sont le nid, un nid à violence aussi. Enfin, Je trouve que c'est assez juste en fait ce qu'elle dit.
Oui, en fait, ça perturbe un petit peu parce qu'aussi on est plutôt habitué à avoir ce système où voilà, tu commets un crime, tu vas en prison, quoi. Et en même temps, ça vient mettre du soin, de la réparation, et c'est surtout que ça vient casser espèce de cycle de la violence, quoi. C'est-à-dire de, alors certes, la personne, elle a tué, elle a violé, etc. Mais si on vient mettre de la violence par-dessus, je pense pas que le résultat, ce soit que la personne soit en rédemption et se disent ah oui j'ai merdé je vais devenir gentil quoi. Et tu parlais du fil rouge de l'éthique du care et moi je trouve qu'on est complètement là-dedans. On a des rapports de domination hyper violents en fait sur donc les êtres humains entre eux avec différents rapports de domination. Tu l'évoquais hein, entre blancs et non blancs, entre hommes et femmes, entre adultes et enfants, et puis entre humains et la nature ou les animaux. Et l'idée, c'est quand même d'arriver à fonctionner différemment et avoir plus d'empathie et de compassion. En fait, elle en parle, ça aussi, de ces valeurs-là, associées complètement arbitrairement et en tout cas de manière culturelle aux femmes, qui sont le soin, l'empathie, la sollicitude. C'est associé aux femmes. En fait, si on était tous programmés avec ces valeurs-là, on pourrait casser tous ces systèmes de domination qui sont hyper violents, en fait, et à tout égard, en fait, y compris au niveau de la nature et des animaux. Et c'est là où on retombe sur les pattes de l'écoféminisme, finalement, qui a cette vision un peu 360, qui permet de voir les relations et les interdépendances, t'aimes que t'aimes bien, et les relations de subsistance aussi. Différemment, avec beaucoup plus de respect et d'entraide, de solidarité aussi, en fait, quelque part. Et ça c'est aussi un autre aspect du bouquin qui m'a beaucoup parlé. Alors déjà parce que je suis évidemment sensible à l'écoféminisme, à la fois dans la pensée écoféministe, mais aussi dans la façon dont moi je le vis et je l'exprime dans mon quotidien. Mais ce rappel assez fort entre l'imbrication des dominations. Il y a aussi le classisme, le validisme, le colonialisme. Voilà, la liste peut être longue, mais ce lien fort avec comment on respecte aussi le vivant, en fait. Il faut prendre soin du vivant dans son ensemble, parce que ça ne suffit pas d'être juste féministe, à mon sens, parce que si on est féministe, mais sur une planète qui part en feu, quoi, l'intérêt est quand même vachement diminué. Et ça m'a rappelé moi aussi comment j'en suis arrivée à l'écoféministe quand elle ouvre le bouquin en parlant d'écologie et de réchauffement climatique et qu'elle conclut entre guillemets sur l'écoféminisme puisqu'elle l'aborde dans le dernier chapitre. Moi, ça m'a rappelé aussi comment j'en étais arrivée à mon écologie à moi, à mon écoféminisme à moi. Et c'est clairement parce que j'ai eu énormément d'empathie. D'un coup, j'ai eu une prise de conscience avec énormément d'empathie et de compassion pour la nature et les animaux en regardant notamment certains reportages documentaires animaliers où là, ça m'a mis une grosse claque et c'est comme ça que je suis rentrée dans comment je consomme, comment on produit ce qu'on consomme et du coup comment on travaille et donc comment est-ce qu'on fait pour que le travail devienne écoféministe et prennent soin en fait du vivant, à la fois des êtres humains, mais aussi de la nature et des animaux en fait. À la lecture de ce bouquin, ça ouvre quoi comme porte que tu as envie d'aller tu vois, ouvrir et les sujets que tu as envie de creuser derrière?
Ce que j'avais envie de creuser, en fait, c'est plutôt des personnes que j'ai découvertes dans le livre, enfin, des penseuses, des chercheuses. D'ailleurs, je me suis dit, parce qu'elle cite évidemment quasi que, enfin, je crois que des femmes scientifiques, sociologues, etc. Et je me suis dit, mais c'est dingue, j'en ai jamais entendu parler de ces personnes-là. Elles sont où dans mes études? Pourtant, j'ai fait un peu de sociologie, mais j'ai jamais entendu parler d'elles. Donc, c'est ça que j'ai eu envie de creuser en me disant, mais il faut que je m'intéresse plus à ce qu'elles ont pu écrire. Justement autour du travail du care. Et puis, c'est elle, comment tu l'as dit tout à l'heure, comment elle en est arrivée à l'écoféminisme et au fait que c'est par, dans la prise de conscience que les destins, le destin animal et le destin féminin étaient liés, qu'elle avait beaucoup d'empathie pour les animaux, elle est devenue végétarienne, d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, il y a toute cette prise de conscience-là, et c'est vrai qu'en parallèle, il y a un autre livre qu'on vous parlera peut-être à un autre moment, mais moi j'ai lu juste après un livre qui s'appelle Des paillettes sur le compost de Myriam Bahafou, où elle parle aussi de véganisme. Et en fait, je me suis dit, c'est vrai que j'avais jamais forcément creusé le lien entre le véganisme ou le végétarisme, enfin en tout cas le fait de ne plus manger d'animaux, avec le féminisme et l'écoféminisme. Et ces sujets-là, j'avais bien envie de les creuser.
Ouais, carrément, c'est hyper intéressant de faire tous ces liens-là. Ça permet vraiment de. Parce qu'en plus, c'est des choses après que tu peux mettre dans ton quotidien, en fait. Enfin, le cas du végétarisme ou du véganisme, enfin, moi qui suis devenue végétarienne, clairement, c'est un acte du quotidien qui est politique presque. Ok, c'est hyper intéressant. Bah, moi, ça m'a donné envie aussi de creuser tout le sujet autour de ce qu'on consomme, là, ce que je disais, ce qu'on consomme, ce qu'on produit, comment on mange, comment on travaille, voilà, qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour préserver le vivant, mais tout le vivant, du coup. Et ça m'a donné envie de questionner, du coup, plein de métiers associés, hein, parce que, du coup, il faut des gens pour faire tout ça. Donc, comment on se peut réinventer aussi certains métiers. Donc, l'éthique du care, évidemment que c'est un fil rouge hyper intéressant. Que j'ai bien envie de creuser également. Et alors du coup, moi, comme je me suis pris une grosse claque sur la question du genre, j'ai envie de creuser en fait tout ce qui tourne autour du genre, mais surtout la pensée queer que je connais très mal en fait. Et je trouve que c'est un angle hyper intéressant pour justement déconstruire la binarité de genre et tout ce qu'en découle, donc ce dont on a parlé, hein, l'hétérosexualité. Les violences associées à tout ça là, et le reste quoi. Donc ça permet d'ouvrir des portes d'avoir en fait ce bouquin ce qui est bien c'est que ça permet d'avoir des bonnes bases et en même temps ça ouvre le champ des possibles et ça donne envie de creuser des thématiques donc c'est vraiment un bon bouquin. Lecture que je recommande vivement en tout cas à celles et ceux qui ne l'auraient pas déjà lu.
Comme on l'a vu, enfin, elle cite beaucoup de personnes, de chercheuses. Enfin, en fait, les références sont assez conséquentes, et je trouve que c'est hyper intéressant juste de peut-être de regarder pour chacun, chacune comment ça résonne et de creuser des sujets parce que il faudrait toute une vie en fait pour tout creuser. Mais je trouve qu'elle aborde pas mal de points et au moins d'en avoir connaissance et après d'aller vers le champ, creuser la thématique qui vous parle le plus. C'est un chouette truc à faire à la lecture de ce livre.